9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
C'est le début de l'après-midi du vendredi 18 mai 1973. Nous sommes à Saint-Denis, au nord de Paris, pas loin de la basilique où reposent les rois de France, dans un quartier qui d'habitude est calme, assez paisible, et qui là accueille ce vendredi après-midi une foule inhabituelle. Le quartier de Saint-Denis, qui était plus ou moins à l'abandon à l'époque en 73, a vu ses façades restaurées, rafraîchies, comme ça en quelques jours, par des équipes qui sont extrêmement efficaces, ce sont les équipes du cinéma. Il s'agit de faire ressembler le quartier à la rue des Rosiers dans le Marais, et ce jour du 18 mai 73, donc c'est le jour du tournage des aventures de Rabbi Jacob dans ce quartier. Les aventures de Rabbi Jacob, prochain film de Gérard Houry. Alors, vous connaissez la scène sans aucun doute, cette foule compacte qui est là, et puis en plein milieu, un rabbin qui danse entouré de 8 danseurs juifs hassidiques. Le rabbin n'est autre que Louis de Funès, qui interprète le personnage de Victor Pivert, obligé de se dissimuler sous la figure de Rabbi Jacob pour échapper à de gros méchants qui le recherchent et le poursuivent. La musique est célèbre, elle est de Vladimir Kosma, elle reprend des airs de chansons traditionnelles juives. Louis de Funès épate tout le monde en interprétant de façon magistrale une chorégraphie qui avait été bien réglée et qu'il a répétée inlassablement chez Vladimir Kosma. Une seule prise, je dis bien une seule prise, sera nécessaire pour la célèbre film, qui est la plus connue du film bien sûr. Ce long métrage, Gérard Houry a l'intention d'en faire une comédie très engagée, une comédie sur la tolérance contre l'antisémitisme et le racisme. N'oubliez pas qu'on est en 1973, on est une petite trentaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les choses ne sont pas aussi claires et évidentes qu'elles le deviendront par la suite. Il dira lui-même, Gérard Houry, à propos de ce film, « Attaquer le racisme et l'intolérance à travers le rire, c'est infiniment plus efficace que l'attaquer autrement. » Houry n'a pas choisi Louis de Funès pour rien. C'est une très grande vedette à l'époque déjà. Il faut le dire, c'est leur quatrième film ensemble. Après Le Corneau en 65, La Grande Vadrouille en 66 et en 71, La Folie des Grandeurs. Le Corneau et La Grande Vadrouille avec Bourvil et La Folie des Grandeurs avec Yves Montand, puisque Bourvil ne pouvait plus jouer au moment du tournage. Houry pense que seul de Funès peut encore jouer ce rôle de Victor Pivert et il dira de lui... Louis de Funès est un excellent interprète comique, c'est-à-dire que c'est le seul acteur au monde qui ait la possibilité d'être odieux sans être antipathique. C'est ça le secret de Louis de Funès, être odieux sans être antipathique. Et c'est vrai que le grand acteur est épatant, même quand il danse dans cette fausse rue des Rosiers. Il a tellement appris, intégré cette chorégraphie, il la sait sur le bout des doigts, que la scène n'est pas un numéro de comédie. La façon de danser de Funès est soignée, presque sérieuse, ce qui explique une certaine noblesse dans l'ensemble et dans le résultat, et surtout ce qui explique que la scène va devenir immédiatement culte.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors l'idée de ce film, elle est née d'une volonté de Gérard Houry. Ça fait longtemps qu'il voulait faire un film comique sur tous les racismes. Houry était né dans une famille juive non pratiquante. On ne peut pas dire qu'il ait subi l'antisémitisme pendant son enfance, mais c'est sous l'occupation. Il a une vingtaine d'années à l'époque, il a 22 ans, quand les lois anti-juives l'empêchent de faire du cinéma. Houry dira que c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de sa judéité, qui jusqu'alors ne lui avait même pas paru un élément très... très fondateur. Il va fuir en Suisse pendant la guerre et commencer à ce moment-là une carrière au théâtre et au cinéma. Mais il n'arrive au théâtre et au cinéma en France qu'après la libération, bien sûr. Houry devient réalisateur. C'est de Funès qui va lui conseiller un jour de faire de la comédie parce que l'acteur dit voir en Houry un grand auteur comique. Il va donc tourner Le Corneau, donc avec Bourvil et de Funès. Le Corneau a un immense succès, 12 millions d'entrées. Et puis ensuite, ce sera le triomphe, littéralement triomphe, de La Grande Vadrouille. Pour les aventures de Rabbi Jacob, c'est avec sa dernière fille qu'Houry va écrire le scénario, Daniel Thompson, qui avait déjà travaillé d'ailleurs sur les précédents. Voici ce que dit Daniel Thompson, ce qu'elle écrit dans le livre qu'elle a consacré à son père et qui s'appelle « Gérard Houry, mon père, l'as des as ». Allusion évidemment à un autre de leurs célèbres films. Elle écrit « Lorsqu'on écrit le scénario tous les deux, arrive très vite l'idée d'un Français moyen raciste qui va être obligé, pour des raisons qu'il nous faut encore trouver, de se transformer en rabbin hassidique. C'est un bon début. Nous le nommons Victor Pivert en imaginant tout ce que Louis va pouvoir faire de ce nom d'oiseau. Il est industriel, riche, bourré de préjugés et raciste. Et puis, nous commençons à réfléchir à la suite des aventures. Et dans le scénario, apparaît cette usine de chewing-gum dans laquelle Pivert va tomber. Vous savez, la voiture aussi qui se retourne dans un lac et qui repose sur un bateau qu'elle porte sur le toit. Et puis la fin du film, dans la cour des Invalides, cette espèce de fin rocambolesque, la fille de Victor Pivert épousant un premier ministre musulman, tandis que Louis de Funès les bénit à la catholique, mais déguisé en rabbin. Bref, c'est pendant ces heures de travail que paraît la fameuse réplique. Comment, Salomon, vous êtes juif ? Oh, Salomon est juif. Oh. Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Ben si. Mais pas toute votre famille, si. Écoutez, ça ne fait rien, je vous garde quand même. Il y a aussi cette réplique à la fin du film qui veut pousser à la fraternité entre catholiques, juifs et musulmans lorsque Louis de Funès, toujours en rabbin, dit à Salomon et à Mohamed Larissilman « Dites-moi, Slimane, Salomon, Salomon, Slimane, vous ne seriez pas un peu cousin ?»« Cousin ?» interroge Salomon. « Éloigné, » répond souriant Slimane, avant que les deux hommes se serrent la main. Vous voyez évidemment la force des symboles. Le scénario du film est fin prêt. La célèbre bande originale de Vladimir Cosma pour les aventures de Rabbi Jacob.
Vous écoutez Radio Classique.
Gérard Houry a donc à son actif un certain nombre d'énormes succès au box-office et il approche assez confiant la direction de Gaumont, seulement voilà ce qu'on lui répond. Un film sur l'amitié entre juifs et arabes, mais vous délirez, alors qu'à chaque instant, le Proche-Orient risque de s'embraser à nouveau. Et de Funès, bourgeois français raciste, xénophobe, antisémite, déguisé en rabbin orthodoxe avec barbe et papillote, lancé dans une affaire de prise d'otage. Les arabes le prendront mal, les juifs encore plus. Non mais vous voulez prouver quoi ? Gérard Houry est un peu étonné hein, de ces réactions qui vont se multiplier finalement. C'est vers Bertrand Javal et sa société de production Film Pomereux que le réalisateur décide de se tourner, avec quand même, il faut dire, un énorme budget pour l'époque. 1 milliard d'anciens francs, hein, c'est colossal pour un film français en 1973. Il a fallu reconstruire en studio une fausse usine de chewing-gum, construire l'intérieur d'une synagogue, reconstituer la rue des Rosiers à Saint-Denis, tourner des scènes à New York, bref. Le tournage se passe sans gros problème. Louis de Funès est très heureux, joyeux sur les plateaux. Sa relation avec Gérard Houry est une chose absolument extraordinaire. Ils se comprennent au doigt et à l'œil. On a beaucoup, beaucoup raconté cette complicité incroyable entre le célèbre réalisateur et le grand acteur. Début septembre 73, le tournage est terminé, le film est monté rapidement parce qu'il a été très bien tourné et la sortie en salle est prévue pour le 18 octobre 73. L'attaché de presse du film, c'est Georges Craven. Georges Craven qui connaît mieux que quiconque tout le monde du cinéma, il va bientôt créer la cérémonie des Césars, vous savez. Il réalise une très grande couverture presse avec des affiches sur tous les murs des grandes villes et on y voit en grand la tête de De Funès en rabbin qui porte ce Streimel, ce large Streimel. Tout est fin prêt, le film peut sortir, sauf que, incroyable mais vrai, c'est exactement le moment où la situation mondiale va basculer. Le 6 octobre, c'est-à-dire 12 jours avant la sortie prévue du film, ce qu'on appelle la guerre du Kippour est déclenchée. C'est le jour du jeûne de Yom Kippour, qui donc en Israël est férié, que les Égyptiens et les Syriens ont choisi pour attaquer par surprise, simultanément, dans le Sinaï et sur le plateau du Golan. En une semaine, Israël se retrouve dans une situation d'assiégé. Son potentiel militaire va être très vite mobilisé. Israël lance des contre-offensives qui vont lui permettre de pénétrer en Syrie, de traverser le canal de Suez. Vous voyez un peu l'ampleur de la crise internationale qui arrive au plus mal au moment de la sortie des aventures de Rabbi Jacob. Et au même moment, Louis de Funès est affiché en rabbin dans toutes les grandes villes. Comme personne n'a encore vu le film, on ignore que le scénario est un appel à la fraternité, donc certains s'insurgent d'une comédie qui tombe au plus mal. On y voit un soutien inconditionnel à Israël, d'autres, au contraire, y perçoivent une moquerie du judaïsme. Pour Gérard Houry, c'est très difficile, il est attaqué des deux côtés, si je puis dire. Je cite de nouveau Daniel Thompson, qui a vécu ça de l'intérieur, bien sûr. Mon père reçoit des coups de téléphone anonymes, des lettres de menaces et des mots d'injures. Il fait changer son numéro de téléphone, se balade avec un revolver dans sa poche et demande à la police de surveiller Louis discrètement. Nous partons même un soir en petit commando, décoller autant d'affiches du film que possible, craignant qu'elles ne passent pour de la provocation. On se plaint toujours qu'il n'y en a pas assez, et bien nous, on est obligés de les enlever. Une réunion de crise a lieu. Est-ce qu'il faut repousser la sortie du film qui doit donc avoir lieu la semaine suivante, le 18 octobre? Nombreux sont les amis du réalisateur qui l'appellent pour lui demander de repousser la sortie, de peur d'émeutes, voire d'attentats dans les salles de cinéma. Et finalement, on décide de sortir le film coûte que coûte. Et de plus, Houry et De Funès vont poursuivre la promotion en appuyant bien entendu sur le message de tolérance, de paix, de fraternité que doit incarner leur comédie. Et les jours passent et un jour avant la sortie du film, on est maintenant le 17 octobre 73, une première projection a lieu pour les acteurs et les membres de l'équipe de tournage, ainsi que leurs proches bien sûr, comme ça se fait toujours. Daniel Thompson écrit... Le producteur du film, Bertrand Javal, Georges Craven, à l'époque l'attaché de presse le plus demandé de Paris, le monteur, Albert Jürgensen, mon père, Gérard Houry, Louis de Funès, qui, nous le savions, détestait se voir à l'écran, et moi, étions conscients que le sujet était sensible. Nous étions donc à l'affût des premières réactions, et lorsque la lumière se rallume à la fin du film, un silence total s'abat sur la petite salle de projection. Pendant le film, il n'y a pas eu le moindre éclat de rire. Les scènes devenues cultes, comme l'usine de chewing-gum ou le fameux épisode « Salomon, vous êtes juif », n'ont pas tiré le moindre sourire à notre producteur ni à Louis de Funès. Sinistre, le visage fermé, muet, il se tourne vers mon père et lui lance des regards désolés, sans commentaire. Mauvais signe. Papa et moi sombrons dans l'angoisse. Dans la voiture, j'essaie de lui remonter le moral, mais la vérité, c'est qu'il est anéanti. Et ça y est, nous sommes arrivés au lendemain, le 18 octobre, jour officiel de la sortie du film. Plutôt jour de la sortie officielle. Mais ce jour-là, une autre actualité vient encore assombrir la sortie du film, puisqu'un avion qui opère la liaison Paris-Nice est détourné et qu'a lieu à bord une prise d'otage. La personne à l'origine de ces événements au sein de l'avion est Danielle Craven, la femme de Georges Craven, l'attaché de presse du film, avec des demandes de sa part qui sont très claires. Elle exige l'annulation de la sortie du film. L'envol, un des thèmes de Vladimir Cosma pour les aventures de Rabbi Jacob.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Incroyable mais vrai, situation inédite, plus forte encore que dans un scénario de film. Le 18 octobre, le jour même donc de la sortie de Rabbi Jacob, un avion est détourné par la propre femme de l'attaché de presse du film. Vous rendez compte, je cite de nouveau Danielle Thompson, elle est la mieux placée pour raconter cela. En pleine dépression, Danielle, l'épouse de George Craven, prend en otage un Boeing 727 Paris-Nice avec une carabine 22 longs rifles. Elle revendique en vrac la diffusion d'un message de protestation contre l'indifférence d'un monde soumis à l'argent, que Pompidou, c'est le président de l'époque bien sûr, fonde une œuvre franco-israélienne, que toutes les voitures soient instantanément interdites de circulation et que les aventures de Rabbi Jacob qu'elle soupçonne d'être anti-palestinien ne sortent pas. Danielle Craven demande que l'avion atterrisse au Caire. Mais pour ça, il est nécessaire de se ravitailler en kérosène. L'avion va donc se poser à l'aéroport de Marignane, à Marseille. Danielle, qui n'est pas une terroriste évidemment, mais qui est une personne qui souffre psychologiquement, ne veut pas faire de victimes. Elle va laisser descendre les 121 passagers qui étaient à bord de l'avion. Et évidemment que le GIGN en profite. Au bout de quelques heures, les agents pénètrent dans l'appareil, fusillade. Et la seule victime, ce sera justement Danielle Craven, drame complètement fou, qui ravage évidemment l'équipe du film, vous imaginez. Et pendant ce temps-là, le film est en train de sortir dans les cinémas. Gérard Oury est dans un état qu'on ne peut même pas décrire. Il se rend incognito dans plusieurs salles pour essayer de capter, de sentir les réactions du public. Et la vérité, c'est que le public rit, que les salles sont hilares, qu'on les voit secouées par des espèces de vagues de rire du début à la fin du film. Et bien sûr que les aventures de Rabbi Jacob seront un grand succès. En à peine 9 jours, le film va faire 1 million d'entrées. Et ce n'est qu'un début, bien entendu, avec une critique unanime dans son éloge, même au sein des journaux qui, au départ, n'avaient pas du tout salué le duo Oury de Funès, notamment dans les précédents films, Le Cornu et la Grande Vadrouille et La Folie des Grandeurs. Tous saluent un film sur la fraternité entre les religions, au moment même où cette actualité internationale explosive rendait le message nécessaire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au total, le film va réunir 7 500 000 spectateurs. Alors c'est nettement moins évidemment que La Grande Vadrouille, mais vous imaginez bien que le sujet est infiniment moins fédérateur. On ne parle pas des petits côtés de cette occupation qui a touché tous les Français. On parle là des questions entre juifs, arabes, français. Bref, tout ce monde-là se presse dans les cinémas. Le film va sortir d'ailleurs dans les pays voisins, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Et partout, le film remporte un grand succès. Il fait rire les gens, il les interroge aussi jusqu'aux États-Unis, au Japon, en Argentine et ailleurs. Et même Rabbi Jacob sera nommé au Golden Globe pour le meilleur scénario d'un film étranger. Louis de Funès avait très peur. Rappelez-vous sa consternation pendant la séance de projection en avant-première où il avait été tellement inquiet, surtout dans le cadre, dans le contexte de cette crise. Et le voilà maintenant rassuré et qui déclare ne vouloir plus faire de film qu'avec Gérard Oury. Et d'ailleurs, Gérard Oury va se remettre au travail, il va concevoir un nouveau scénario qui est peut-être encore plus politique que le précédent et qui s'intitule « Le Crocodile », un film qui est là encore extrêmement proche de ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de films de pays, et notamment au Chili, film qui doit raconter les aventures d'un dictateur dans un pays d'Amérique du Sud. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que le dictateur en question, c'est Louis de Funès, bien entendu. À travers ces différentes péripéties, le film doit dénoncer les régimes autoritaires et totalitaires du XXe siècle. On s'inscrit un peu dans la lignée de ce qu'avait voulu faire Charlie Chaplin au milieu du siècle, en tout cas juste avant la Seconde Guerre mondiale avec Le Dictateur. Et il était prévu que ce film soit la 5e collaboration entre les deux géants, entre Oury et De Funès. Je dis aurait dû être, parce que, évidemment, les choses ne vont pas se passer de cette manière. Je cite une dernière fois Danielle Thompson. « On est en mai 1974 et le tournage est annoncé pour l'année suivante. Nous nous mettons au travail. Pendant une pause, Gérard part en repérage. En Grèce, la dictature des colonels a été renversée. Les nouveaux dirigeants, ravis qu'on vienne tourner dans leur pays, surtout cette histoire-là, ils sont prêts à nous aider. Bah oui, vous imaginez, le régime des colonels a vécu en Grèce et la toute nouvelle démocratie qui est en train de s'installer à Athènes est ravie qu'on se moque des dictateurs, bien entendu. Tout avance bien, poursuit Daniel Thompson, mais le 21 mars 1975, 2 mois avant le début du tournage, Louis de Funès fait un infarctus, puis un second quelques jours après. Il avait déjà eu une alerte lorsqu'il jouait au théâtre La Valse des Toréadors. Son état suscite beaucoup d'inquiétude. Âgé de 59 ans, il a besoin de longs mois de repos. Il ne pourra plus tourner de films qui lui demandent un trop gros effort physique. Eh oui, Louis de Funès va tourner d'autres films, bien entendu, avec Claude Zidi, avec Jean Giraud et d'autres. Mais il ne tournera plus avec Gérard Oury. La personne de Rajvi Jacob n'en reste pas moins marquante. Elle a touché le public de 1973. Et la grande question qu'on ne peut s'empêcher de se poser aujourd'hui, c'est de savoir si elle touche toujours le public, tous les publics de 2024.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen, qui comme moi est un amoureux de Louis de Funès. Et bonjour à notre Christian Morin.
Amoureux aussi de Funès.
Oui, aussi.
Et au théâtre, on l'a oublié, mais l'homme de théâtre, Pierre Mondy d'ailleurs le soulignait.
Vous l'avez vu au théâtre ?
Je l'ai vu au théâtre, j'étais beaucoup plus jeune, et c'était quelqu'un d'extraordinaire. Le rythme à la Fédo, c'était extraordinaire. Alors, on conseille beaucoup aux gens, vous savez, en cette rentrée, soyez prudents de mettre un casque quand vous faites de la moto, de mettre un casque même à bicyclette ou à vélo. Et lui, avait un casque, ne faisait ni moto ni vélo. C'est Périclès, il avait une drôle de tête quand même, une tête un
peu... Je voyais vraiment pas où vous vouliez en venir.
J'y arrive, puisque c'est de lui dont vous allez parler cet après-midi.
Je signale aux auditeurs que vous aussi, vous avez un casque d'ailleurs ce matin,
oui, tout
mais
à
d'un
fait.
Autre registre,
oui,
d'un autre genre.
Des petites oreillettes, très très fines pour mes petites oreilles. Périclès ou l'âge d'or à Athènes, vous évoquiez la Grèce dans ce projet de Gérard Oury. C'est une histoire, très, très triste que vous avez évoquée avec cette pauvre Danielle.
Très belle en même temps.
Oui, très belle, bien sûr. Bien sûr, et un petit clin d'œil, je pense que vous en conviendrez, à Daniel Thompson.
Oui, bien sûr, et comment ?
Bonne
journée.
J'ai
eu la chance d'interviewer plusieurs fois.
À tout à l'heure. Moi, j'ai eu le plaisir, grâce à elle, de tourner et d'être le gendre d'une certaine Michèle Morgan.
N'est-ce pas ?
Voilà, il y a quelques années. Merci, ma chère Danielle. À tout à l'heure, Franck, et à demain matin, 8h05 et 9h pour Franck Ferrand.